Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. Un sujet préparé et qui va être animé par Sylvain Kunzmann, professeur de musique de l'enseignement spécialisé, formateur MuseScore et numérique éducatif. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais en profiter de cette émission pour remercier Sylvain de vive voix et en direct, car il a été l'un des tout premiers contributeurs de l'aventure Libre à vous. Il s'occupait de la très importante tâche de traitement des enregistrements des émissions pour en permettre la diffusion sous forme de podcast. Et d'ailleurs j'ai cherché, je voulais te demander en avant l'émission, tu t'en es occupé deux ou trois saisons, je crois, deux ou trois ans.
Oh, peut-être deux saisons, oui, effectivement, saisons. Oui.
Bah, ce qui nous a permis aussi de nous lancer, donc c'était vraiment un moment assez charnière et très important pour l'émission. Donc merci Sylvain pour cette contribution.
Merci pour ce clin d'œil.
Et avant de laisser la parole à Sylvain et à ses deux invités que Sylvain va pouvoir présenter, je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Sylvain, je te laisse la parole.
Merci Étienne et bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, dans mes activités d'enseignant ou de formateur, j'entends parler autour de moi, dans mes collègues et aussi beaucoup sur la toile, de certains sujets qui sont un petit peu sur le devant de la scène en ce moment et surtout depuis la crise du Covid. J'entends les thèmes de formation tout au long de la vie, de transition numérique de l'école, de transformation digitale des apprentissages, de LMS, de présentiel, distanciel, social learning, etc., etc. Et je me suis dit que peut-être qu'il y aurait besoin de faire un petit point là-dessus, sur ces thématiques-là. Et c'est pour ça que aujourd'hui je propose ce sujet-là à travers deux invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Le contexte étant qu'on a même eu à Paris en février dernier un salon, le salon Learning Technologies Paris, qui a réuni plus de 9000 professionnels du e-learning, dont l'un de nos invités ici, je crois, Eric Varnier, qui a mis en avant le e-learning, la formation, les ressources humaines. Et on a un marché qui, a priori, selon les études que l'on voit, est en pleine progression, une progression même exponentielle. Si je reprends quelques chiffres pour 2022, je vois selon l'étude de SkillCounter que 70% du marché mondial de l'apprentissage en ligne se situe aux États-Unis et en Europe, que les femmes sont 17% à indiquer vouloir s'inscrire volontairement à une formation e-learning, contre 13% des hommes interrogés, ça c'est une étude NCES de 2021, et que près de 80% des entreprises utilisent des plateformes d'apprentissage en ligne. Ça, c'est une étude de Statista de 2020. Alors, aujourd'hui, faisons un petit peu le point, autant pour le néophyte, sur ce que c'est que le LMS, l'apprentissage en ligne, les plateformes d'apprentissage en ligne, que sur la partie peut-être un peu plus technique parfois, à travers des exemples précis qu'on va vous détailler tout à l'heure. Je reçois pour ce faire Nathalie Sauter. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, vous le direz mieux que moi, mais vous êtes formatrice de formateurs, spécialisée dans la pédagogie numérique, professeur certifié en poste actuellement auprès du réseau Canopée de Beauvais et bénévole Oisux et Primetux.
C'est cela, tout est juste.
Le réseau Canopée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est...
C'est un des acteurs de l'éducation nationale. Là, on est en charge, en fait. Il y a un atelier Canopée dans chaque département de France. Nous sommes une entité nationale et nous rayonnons autour de ce qui est le numérique éducatif dans les établissements, mais pas seulement, ça porte tout ce qui peut être en lien avec l'éducation, ça peut être les valeurs de la République, ça peut être la coéducation au sens large.
D'accord, donc Canopée agit comme opérateur en fait du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. Et alors comment on passe de professeur certifié à cette affectation sur le réseau Canopée?
Une appétence pour le numérique et l'innovation. Avant ça, j'étais en poste en réseau d'éducation prioritaire à Beauvais toujours, après quelques années à l'étranger, en Afrique ou autre. Et arrivé là, j'avais fait un peu le tour, ça faisait un peu 16 ans que j'enseignais la même matière. J'avais envie de voir d'autres choses, ils ont monté un Fab Lab, ils avaient besoin de quelqu'un pour animer le tiers-lieu pédagogique et j'avais envie d'expérimenter la chose dans une dimension autre. J'étais déjà formatrice, ce qu'on appelle le PLE, c'est-à-dire je formais déjà mes confrères en technologie.
D'accord, PLE, c'est...
C'est les gens qui forment les gens qui sont en établissement.
D'accord, ok. Et on a hâte d'entendre un petit peu votre expérience à ce sujet-là. Pour vous rendre l'appareil, on a invité Yannick Varnier. Yannick, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes fondateur du projet Chamilo et président de l'association Chamilo et leader technique de la plateforme e-learning du même nom. ingénieur logiciel de formation. Et vous êtes également utilisateur de logiciels libres depuis 1998. C'était au siècle dernier, donc. C'est pour vous vieillir un petit peu. Et vous faites régulièrement le défenseur public à travers d'articles ou de conférences en Europe et en Amérique latine du logiciel libre. Et vous dirigez aussi l'entreprise Business.
Oui.
Voilà. Business, vous pouvez nous dire.
Qui est une entreprise de services qui fournit des services autour de la solution Chamilo. Donc simplement, le principe du logiciel libre, c'est que tout le monde peut l'utiliser librement, etc. Mais souvent, on a soit des entreprises, soit des académies qui ont besoin de soutien, d'un soutien professionnel. Et donc, c'est ce qu'on fait avec Business.
D'accord. Alors, on va parler en détail tout à l'heure de la solution Chamilo, mais comment on en vient à créer une solution pareille?
Alors, Chamilo pas tout à fait créé de zéro, donc c'est-à-dire que Chamilo est un fork d'une autre solution de logiciel libre à l'époque qui était Dokeos, qui elle-même était un fork d'une autre solution libre qui s'appelait Claroline, et Claroline elle-même est une solution qui est née au sein d'une université, de l'Université catholique de Louvain en Belgique, à l'initiative de deux enseignants de philosophie. De professeurs de philosophie, pardon, qui voulaient simplement une plateforme pour étendre un petit peu la possibilité de dialoguer des étudiants avec les profs et entre eux, au-delà des cours en auditoire, quoi. Et donc c'est le début du système. Après, il y a eu des forks. Les forks en logiciel libre sont des séparations du projet entre deux groupes qui veulent défendre des valeurs légèrement différentes. Et donc, parce qu'il y a eu une première séparation entre Claroline et Dokeos en 2004. Fin 2003, début 2004, et une seconde séparation entre Dokeos et Chamilo en 2010. Donc nous, on n'est pas parti de zéro, mais depuis, on est, de toutes ces solutions, on est la seule qui bouge un grand public, disons, actuellement. Ouais.
D'accord. Et Business, ça vient par la suite, en fait, comme
Non, Business vient avant Chamilo. Et le Business, en fait, avait pour objectif initialement de fournir du support sur des solutions de logiciels libres en général. Ce n'était pas spécialement e-learning. Et donc, à partir de 2010, on se spécialise, puisque Business était quand même un acteur très important du projet Chamilo. À partir de 2010, on se spécialise sur l'e-learning, dans l'e-learning. Et voilà.
D'accord. Alors, je vous propose qu'on opère en deux parties. Une première partie qui va plutôt, on va essayer d'expliquer ou de définir ou voilà, d'esquisser un petit peu ce que c'est qu'une plateforme de cours en ligne, enfin un système de gestion de l'apprentissage. Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas d'ailleurs? Je vous poserai la question d'où ça provient et puis quel impact cet outil a sur l'enseignement ou l'inverse, quel impact les pratiques pédagogiques ont sur ces solutions techniques. Et dans un deuxième temps, on pourra peut-être prendre des exemples plus précis. On va parler notamment de Moodle, mais pas que, forcément de Chamilo, et expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette solution. Alors, je disais en introduction qu'on entend beaucoup, on entend parler de beaucoup de mots et de vocabulaire parfois nouveaux et parfois que certains ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'on peut, juste avant de commencer, se faire un tout petit glossaire rapidement? Comment on peut définir ce que c'est que e-learning, Nathalie?
Alors, l'e-learning, c'est la possibilité d'étudier en ligne. Mais il y a plusieurs formats. Quand on dit e-learning, ça veut dire que le cours est déporté sur un support numérique que tu accèdes, sur lequel on accède par les internets. Mais tu peux avoir soit ce qu'on appelle du blended, on va parler français dans 3 minutes, on va arrêter de faire semblant qu'on est très savant. En fait, on divise en 3 catégories. On a quelque chose qui est accessible totalement en ligne avec aucun recours humain, c'est-à-dire que le contact humain est extrêmement limité. Vous avez quelque chose qui va être une solution mixte qu'on appelle le blended learning, dans lequel on va avoir une classe en distanciel qui va être suivie par les apprenants et le reste des exercices qui va être fait en temps personnel en dehors de la présence du formateur. Et vous avez aussi des supports en ligne comme ça qui sont installés que pour le temps de la présentation de la formation. Ça peut durer 3 heures, ça peut être une formation totalement déportée où effectivement vous allez vous connecter avec votre ordinateur, mais vous allez être en présence de quelqu'un pendant 3 heures et sur lequel il va dérouler son protocole de formation totalement en ligne.
Ok, on entend parler aussi de M-learning, formation à travers le mobile, le smartphone, ça aussi c'est quelque chose qui...
C'est indispensable.
Voilà, c'est, qui est indispensable. Donc.
C'est quelque chose qui est devenu dans les usages. Il faut comprendre que c'est apparu parce que les gens sont de moins en moins équipés d'ordinateurs à la maison. Bien sûr que l'ordinateur a des beaux jours devant lui, mais la jeune génération et les collégiens, les lycéens, etc. travaillent énormément à partir de leur smartphone. Et quand on a besoin de les toucher, de les atteindre, il faut que ce soit responsive. Ça veut dire que mon support de formation doit fonctionner aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui est important de prendre en compte au moment de la conception et de la création du système.
D'accord. On entend parler aussi de social learning.
Alors, oui, le social learning, c'est simplement la possibilité d'apprendre mieux dans un contexte social, donc de partager avec d'autres personnes nos apprentissages et de faire en sorte qu'ensemble, on apprend de façon plus active, de façon plus motivante aussi, parce qu'on voit les pairs qui apprennent également. Je ne sais pas si tu peux rajouter.
En pédagogie, ça porte un nom en fait. C'est ce qu'on appelle l'émulation. On sait que pour avoir une émulation, quand tu apprends quelque chose, il faut 6-7 personnes dans une classe. Si tu as un groupe d'apprenants inférieur à 7, l'émulation n'est pas la même que si tu as quelque chose de ce nombre, à partir de ce nombre-là et au-dessus. Ça, c'est quantifié en neurosciences. On sait dire à peu près maintenant comment on fait ça. On peut apprendre différemment, bien sûr qu'on peut apprendre un par un, on peut apprendre en groupe de trois, mais l'émulation, c'est-à-dire l'intelligence collective et l'émulation du groupe et l'entraînement, se fait à partir 5, mais 6-7 personnes, c'est vraiment idéal.
C'est l'aspect collaboratif des apprentissages.
Tout à fait. L'humain est quand même un animal grégaire. On peut dire ce qu'on veut, on est des animaux grégaires.
D'accord. Alors, bon, on va détailler encore, on entend parler de continuous learning, micro-learning, adaptative learning. Je crois que c'est décliné à toutes les sauces, mais on a compris l'essentiel de ce dont on en allait parler. Alors, tout ceci, ça date pas d'hier. Sans faire un historique complet de l'histoire de l'apprentissage en ligne ou à distance, on pourrait évoquer éventuellement tout cet enseignement à distance qui avait lieu avec la poste, même dès le 19e siècle. Et puis à partir du 20e siècle, on a eu aussi toutes ces inventions, la machine à enseigner de Sidney Presser en 1924, ou le cylindre à problème, ça c'est 1929, donc même avant l'apparition de l'informatique. Et puis finalement, le mouvement universitaire a lancé un petit peu l'enseignement à distance, notamment avec les grandes universités américaines au XXe siècle. Et tout ça s'est développé petit à petit. Au niveau de la France, je crois que tu as quelques repères aussi par rapport à...
Moi, j'avais trouvé le début des MOOC en fait, et des enseignements massifs en 2012, qui faisaient suite aux enseignements du CNED et aux enseignements à distance qui se passaient par diverses plateformes via la poste et les envois.
D'accord.
On a utilisé le CNED pour nos propres enfants quand on était à l'étranger. Pour pouvoir continuer la scolarité des enfants, on a utilisé ces systèmes-là.
Donc pour les plateformes LMS elles-mêmes, ça revient au... Enfin, Internet est un élément essentiel, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des machines, effectivement, d'apprentissage, etc. Mais une des questions très fortes, c'est l'accessibilité, la disponibilité de ces plateformes ou de ce contenu d'apprentissage. Et ça, on l'obtient qu'à partir du moment où on a un accès distant aux ressources de l'université, par exemple. Donc dans les premières plateformes, il y a notamment WebCity, qui était en fait donc un peu à l'origine de Moodle, puisque Martin Dougamas, qui est le fondateur de Moodle, lui-même était administrateur de WebCity dans son université en Australie, avant de décider de lancer une plateforme libre pour éviter un petit peu le piège habituel, vendor lock-in, comme on dit en anglais, qui est le fait, quand on utilise une solution qui n'est pas libre, d'être piégé dans les filets du fournisseur de l'application elle-même. C'est-à-dire que plus on accumule de connaissances ou d'informations dans ce système, plus on est bloqué dans ce système-là. C'est-à-dire que si on veut en sortir, il faut qu'on ait un chemin pour en sortir. Il faut qu'on ait des standards qu'on puisse réutiliser pour exporter les informations vers un autre système. Et c'est vraiment ça que les plateformes libres viennent solutionner. C'est qu'on peut, à partir de là, avoir un accès totalement ouvert à nos propres données. On ne reste plus jamais piégé auprès d'un fournisseur en particulier.
Je vais me permettre, c'est vrai que la traduction plus communément admise à Vendor Lock-in, c'est enfermement propriétaire.
Super. Je suis pas très bon dans le franco-français.
Donc finalement, l'évolution de ce domaine-là, c'est Internet qui permet, à un moment donné, on change d'échelle. On a une grande accessibilité, tout d'un coup, de contenu, et puis on a un aspect interactif, que ce soit avec les contenus eux-mêmes, enfin, et avec ses pairs éventuellement.
Voilà, mais c'est vraiment... Et puis on a, donc c'est une progression, c'est-à-dire qu'au début, ben, c'était un petit peu comme des sites web, on proposait le contenu, mais sans vraiment faire de suivi important, et puis après on rajoute des forums, par exemple, pour avoir des interactions réellement, et puis on rajoute des outils de suivi qui permettent de savoir exactement quand quelqu'un a fait quelque chose, quand un étudiant, un apprenant a... exercer une activité d'apprentissage pour pouvoir lui donner un meilleur suivi et pour pouvoir améliorer son apprentissage.
D'accord. Alors, pour rentrer dans le sujet, je vais vous citer un texte qui est extrait d'un dossier intitulé « Le numérique et l'éducation dans, dans un monde qui change, révolution ?» point d'interrogation. C'est un texte qui a été publié dans la Revue internationale de pédagogie de Sèvres et qui est écrit par Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, dans laquelle ils réalisent des études de cas en fait, de l'état du numérique dans l'éducation dans différents pays du monde. Alors Bernard Cornu est professeur des universités honoraires et il a principalement travaillé sur l'intégration du numérique dans l'enseignement et sur la formation des enseignants. Et Jean-Pierre Véran est inspecteur d'académie. Alors je précise que ce dossier, il est librement consultable, au moins en partie, sur le portail openedition.org. On mettra le lien dans la page de l'émission. Alors voici l'extrait que je cite. Depuis plus de 30 ans, à travers le monde, on s'intéresse à l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement, à l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Tous les responsables de systèmes éducatifs ont compris qu'il s'agissait d'un enjeu essentiel. Et pourtant, on peut considérer que les choses évoluent plutôt lentement. Le numérique n'est pas vraiment intégré à l'éducation, l'école n'a pas profondément changé, et bien des enseignants restent distants face au numérique. Mais on peut aussi constater l'immense quantité d'expérimentations, d'innovations, de réussites dans l'utilisation du numérique pour enseigner et pour apprendre, la qualité de bien des ressources numériques produites, tant pour la classe que pour apprendre à distance. Fin de citation. Ce texte, il a été rédigé en 2014, c'est-à-dire il y a presque 10 ans. Alors selon vous, est-ce qu'il est toujours d'actualité, partiellement ou pas du tout ? J'ai en tête le numérique qui est intégré à l'éducation, l'école qui n'a pas profondément changé ou les enseignants qui restent distants face au numérique. Voilà ce qu'on écrivait en 2014. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça dépend de quel enseignant on parle et où on est posé. Si on est dans le niveau universitaire, il n'y a pas de souci, le numérique a toute sa place parce qu'il y a les infrastructures, parce que les universités sont équipées, parce que les jeunes sont équipés, les enseignants et les apprenants. Quand on va dans le niveau lycée ou secondaire, il y a des salles informatiques dans tous les collèges et dans tous les lycées, vous avez des endroits, les jeunes sont équipés dans une certaine mesure, et en fonction des quartiers, des niveaux sociaux, vous avez un taux d'équipement qui peut varier. Quand on arrive à l'école primaire, ça devient une autre histoire. Dans les écoles de campagne, d'où la distribution Printux, l'accès au numérique est relié directement à la capacité financière de la mairie. C'est la mairie qui prend en charge ce type de matériel. Si vous êtes dans une grosse commune, le matériel existe et vous avez les salles, vous avez les moyens, vous faites des demandes et ça tourne. Quand vous êtes dans des petites communes de village, vous avez des fois un ordinateur dans la classe qui permet de faire l'appel et c'est celui de l'enseignante. Ou c'est un vieux poste qui traînait quelque part et qu'on a mis dans l'école. Ce sont ce qu'on appelle les machines de fond de classe. Ce qui ne permet pas non plus une appropriation facile du numérique. Mais pour former les enseignants tous les jours, je peux vous assurer qu'il y a un vrai travail qui est fait. Il y a quelque chose qui a été mis en place et qui s'appelle PIX. Il y a un PIX spécial édu qui est mis en place. Donc PIX est un certificat informatique que vous pouvez passer, qui est mis en place par le gouvernement français, à partir du libre d'ailleurs, et qui est un projet qui a été porté par le Lab 110, le ministère et des tas de personnes, sur lequel vous pouvez venir valider votre niveau en informatique, votre maîtrise de l'outil. Les enseignants souvent sont tenus de le passer, comme régulièrement on a des certificats informatiques à passer. Le dernier en date s'appelle Pixedu, c'est assez nouveau. Et vous pouvez vous entraîner librement et gratuitement sur la plateforme pix.fr. Et quand vous avez atteint un certain niveau, vous êtes certifiable. Comme vous êtes enseignant, vous avez la possibilité de venir vous certifier dans un des centres agréés. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour qu'il y ait une vraie maîtrise de l'outil numérique. Et ensuite, il y a aussi un manque de temps. Il y a des formations qui sont mises en place à l'éducation nationale. Et c'est beaucoup sur le lire, écrire, compter dans le primaire. Et le temps dédié à la formation du numérique, elle est réduite parce qu'il y a énormément de besoins, énormément de demandes. Et donc, les enseignants ont soin de se former seuls souvent et à se débrouiller. Alors, ça dépend des académies, ça dépend de vos inspecteurs, mais le gros de l'histoire, c'est quand même ça. Donc c'est vrai dans une certaine mesure et tout dépend où on est assis dans le circuit.
Voilà, oui, je vous voyais hocher la tête pendant que je citais le texte. Effectivement, je comprends mieux. Et il est vrai d'ailleurs que dans le dossier, il est dit plus loin que l'établissement dans lequel on regardait était prépondérant pour ensuite l'observation qu'on faisait par la suite. Oui. Yannick, sur cet état de fait d'il y a 10 ans, vous pensez qu'on a évolué beaucoup, un peu, le Covid, oui, non,
enfin... Non, je pense que c'est toujours d'actualité. Un des gros problèmes au niveau de déséducation nationale en général de par le monde, c'est que ce sont des machines énormes à faire bouger, et donc faire changer les usages à un niveau national, c'est toujours très compliqué. Alors on trouve toujours des enseignants super motivés qui font avancer, qui tirent un peu les autres derrière eux et font avancer la chose, je veux dire en général l'effort de digitalisation, de numérisation. Mais on a aussi toujours ce problème qu'au final c'est un effort qui doit être initié à un niveau plus élevé parce que la machine de l'enseignement national c'est toujours une machine très hiérarchisée,
centralisée.
Et donc il faut qu'il y ait un effort suffisant. Mais alors on arrive directement au problème du financement, qui est que dès qu'on veut financer un changement à ce niveau-là, on parle directement de budget énorme, quoi. Et du coup, ça ralentit un petit peu le progrès. Mais malgré tout, on sent que les nouvelles technologies disponibles accélèrent quand même progressivement l'adoption. Donc les technologies deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Je sais pas si on ira dans ce sens-là aujourd'hui, mais cette année-ci en particulier, on a eu une explosion de systèmes d'intelligence artificielle dans tous les sens. Il y a vraiment de tout. Et il y a notamment beaucoup de systèmes qui permettent aux enseignants de gagner du temps, quoi. Donc de pré-générer du contenu d'apprentissage, d'évaluer les choses. Voilà. Nathalie n'a pas l'air tout à fait d'accord avec moi, mais en tout cas, on parle d'accélérer, on ne parle pas de remplacer leur fonction, mais de permettre réellement de développer des contenus de façon plus rapide et parfois de meilleure qualité. Ça dépend un petit peu. Évidemment, on a toujours, avec les systèmes d'intelligence artificielle maintenant, on a toujours un pourcentage, on appelle ça l'hallucination, dans les systèmes d'intelligence artificielle, les grands modèles de langage, les LLM, comme ChatGPT, Bard, etc., où on a en fait un pourcentage des résultats qui sont donnés, qui sont totalement fantaisistes. Et là, l'enseignant doit jouer son rôle de validateur et de vérifier qu'effectivement cette information est correcte. Mais en attendant, on a... Je parle d'un pourcentage, généralement c'est 10 à 20%, et le reste du temps, on a du contenu de qualité qui peut être créé déjà actuellement avec ce système-là. Ouais.
Je me parle peut-être juste une référence, parce que Yannick, vous avez mentionné le rôle de l'impulsion du gouvernement, de l'éducation nationale. En début d'année 2022, on avait reçu Alexis Kaufmann, qui est professeur mathématique, fondateur de Framasoft, pour celles et ceux qui connaissent cette super association. Et il est actuellement chef de projet logiciel et ressources éducatives libres. Voilà, il fait partie à la direction numérique de l'éducation. Il y a Audran Le Baron, qui est le nouveau directeur, et qui semble donner une impulsion intéressante vers le logiciel libre. Voilà, on verra comment concrètement ça se met en place.
On est au-delà du semblant, hein. On est sur quelque chose d'extrêmement concret. Il y a des assises qui se sont tenues. Il a été défini, puisque j'étais là-bas avec eux, donc voilà, et la réunion de fin se tiendra le 4 juillet. Ça s'appelle GTNUMS, groupe de travail numérique libre. Il y a une vraie réflexion qui est portée donc par la DNE et aussi par la DINUM, la direction du numérique en général, autour du logiciel libre et de l'éducation. Ils ont mis à la disposition du corps enseignant des outils, des plateformes en un Peertube qui est accessible. N'importe quel enseignant en France avec une adresse académique peut déposer ses capsules vidéo créées à destination des élèves sur un média sécurisé, accessible par les élèves, qui est tenu en état et donc de fonctionnement permanent, où on n'a pas à s'inquiéter de savoir sur quelle plateforme on va le poser, est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que les élèves sont en danger, pas en danger. Enfin, c'est quand même pas rien. Ils ont sécurisé les protocoles pour les classes en ligne. Parce que justement, le Covid a quand même été une très belle expérience pour beaucoup d'entre nous. Il y a la DNE, il y a la DINU, et il y a les DAN aussi en région, qui ont fait un excellent travail pour rendre accessibles tous les outils pour que justement les enseignants soient débarrassés de ces abonnements qu'on a achetés à titre personnel. On a fait ça pendant longtemps pour avoir des outils qui fonctionnent et être sûr. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans la machine. C'est comment je fais pour communiquer avec mes élèves. Alors c'était bien avant le Covid, parce que moi au moment du Covid j'étais déjà chez Canopé. Mais comment je fais pour que mes élèves puissent avoir accès aux ressources? Ils n'ont pas d'ordinateur chez eux, ils sont connectés avec la Wi-Fi du centre social. Ils sont connectés avec la Wi-Fi du McDo. Comment je leur envoie les cours? Comment je communique avec eux? Comment ils me rendent le travail? Et comment j'en fais les citoyens de demain? Parce que mettre quelque chose en place pour des gamins, enfin des jeunes, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient accès à l'outil, qu'ils puissent l'utiliser et vous renvoyer le travail. C'est ça aussi l'enjeu. Et ça, la DNE l'a sécurisé avec la DINUM et tout l'équipe. Et c'est quand même pas rien.
À mettre à leur crédit aussi, toute la suite app.education,
c'est ça exactement là, que je parlais.
Avec d'autres outils comme BigBlueButton pour les
classes
en ligne,
des
choses comme ça.
Et saluons vraiment, il y a des agents formidables, formidables qui ont poussé ça parce que c'était pas gagné à l'époque et ils ont vraiment fait un travail extraordinaire avec apps.education.fr. Voilà, à retrouver, on mettra le lien, les références sur la page de l'émission.
Mon point de vue technologique ici, c'est que c'est réactif, quoi. Ça, malheureusement, enfin, c'est très bien que ces efforts se fassent, mais on est quand même, quand on parle de mettre en place un Peertube ou quoi, ça fait quoi, 20 ans que YouTube existe. Donc on a, c'est ce que je disais, quoi, le mettre en place des projets, ça prend très longtemps, et c'est là qu'on a, c'est pas dû uniquement à ça non plus, mais on a quand même une différence entre la proposition de l'éducation en général, du réseau éducatif, et ce qu'on trouve sur Internet, qui généralement, en observant les jeunes simplement, quoi, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils se connectent à la plateforme de l'école pour étendre leur apprentissage, ou est-ce qu'ils préfèrent regarder des vidéos sur YouTube, quoi. Donc c'est là qu'il y a, je pense, un petit travail à faire au niveau de la création du contenu, un gros travail. Mais en attendant, il y a une évolution. Je pense que ça, c'est très positif, effectivement. Et nous, évidemment, avec Chamilo, puisque c'est un petit peu mon, mon papier ici, nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de mettre en place dans la plateforme Chamilo tous les outils dont l'enseignant a besoin pour se passer, justement, de YouTube, de plateformes, des Google Apps, etc., pour essayer de leur offrir ces systèmes-là d'une façon libre, quoi. Donc, pas qu'ils doivent pas s'inscrire sur une plateforme et tout. Même au-delà de s'inscrire, de devoir payer ça de façon personnelle pour les enseignants, parce que c'était souvent le cas aussi, il y a aussi le fait de partager ces données avec un système qui est géré par une entreprise américaine qui a pas du tout les mêmes règles au niveau respect des données personnelles que ce qu'on a en Europe, quoi. Voilà. Enfin, maintenant, avec le GDPR, ils sont obligés, apparemment, mais il y a quand même une série de procès européens qui...
GDPR, quoi. RGPD, plus souvent en français, qui est donc le règlement général pour la protection des données.
Voilà, merci.
Dans l'étude que je citais au début, qui date de 2014, de Bernard Cornu et Jean-Pierre Véran, il y avait aussi, il y a cet aspect d'intégration ou d'outils qui sont disponibles, et là, on vient de noter que... La DNE, entre autres, a mis des outils à disposition, effectivement, mais ensuite, il y a peut-être d'autres freins. Dans le texte, on notait, par exemple, les enseignants qui restent distants face au numérique. Il y a aussi ensuite cet effort de formation, déjà cet effort personnel, l'effort aussi du système à les former ses professeurs. Et l'accès à tout ça, et c'est peut-être aussi il y a différents freins, même si l'outil est disponible, est-ce que ça ruisselle jusqu'au bout?
Alors moi je suis peut-être particulièrement optimiste, mais peut-être parce que c'est mon travail et que je suis un peu là pour ça. Tous les jours je me lève pour ça, mais il y a quand même énormément de choses qui sont faites et mises en place qui donnent des avancées. Et on constate une prise en charge et du numérique par les enseignants, une appétence, une volonté. J'en ai toujours eu là où je travaille, mais il y en a de plus en plus qui poussent la porte avec des demandes précises, des envies. Actuellement, le besoin de formation, c'est sur les podcasts. Le podcast est un format intéressant pour faire travailler des élèves. Il y a quelques temps, on travaillait sur la transmission des savoirs avec des films en stop motion. Il y a encore quelques temps, on travaillait sur l'écriture de Learning Management System. Et le Covid a fait prendre conscience à tout le monde de leur propre niveau et de leurs propres limites. Et les gens se sont formés eux-mêmes parce qu'il y a quand même, alors je ne sais pas pour le reste du monde, je peux parler de ce que je maîtrise, c'est-à-dire ici, il y a quand même chez les enseignants français la capacité à se mettre à travailler, s'instruire, apprendre par eux-mêmes avec une force et une volonté. Le samedi, le dimanche, pendant les congés, il y a quand même une force vive de travail qui est fournie en dehors du temps officiel de travail qui leur permet d'acquérir un certain niveau. Et le gouvernement et les instances qu'on a citées tout à l'heure leur offrent une palette de possibilités. L'endroit où je travaille en est un. Les DAN ont donné des formations par journée entière et par cohorte entière pendant le confinement et après. La DAN, Direction Académique au Numérique Éducatif. Il y a un service DAN dans chaque académie et il y a une DRAN par région. Et l'instance inférieure, enfin c'est l'instance en dessous de la DNE. C'est comme ça qu'ils sont DNE, DARAN, DAN. Pardon pour les acronymes, excusez-moi si je vais faire un peu plus attention. Et donc ils sont, eux, opérationnels pour former les enseignants. Et en primaire, ce sont les inspecteurs d'académie qui définissent ce qu'on appelle des IEN, qui vont définir à quel type de formation ils peuvent avoir accès et combien d'heures.
Je vous propose peut-être de faire une petite pause musicale pour se reposer les ménages avant de se replonger dans ce sujet passionnant. Nous allons donc écouter Diaspora Dialectique par Tintamarre. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Mais jamais dans l'idée. Et nous tout le monde après la bonne. qu'on ferait pour l'unifier. Ouais, c'est un gros free-fall qui nous coûte bien, bien cher. Les marginaux, la classe moyenne et le monde des affaires. La vie est peut-être juste physique, mais puis y'a rien au bout. Reste que l'esprit, mais c'est des bifs, ils veulent la critique sur tout. Fait que croire que sur toi-même, te font peur du jardin l'extérieur. Mais ensemble, jamais, non, jamais, nous achètent ton intérieur. Jamais, non, jamais.
Venons d'écouter Diaspora Dialectique par Tintamar, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April, vous écoutez Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Siva Kotsman et ses deux invités, Nathalie Sauter et Yannick Varnier, échangent sur les plateformes d'apprentissage en ligne libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Sylvain ?
Alors, rentrons dans le vif du sujet, on va pas tourner autour du pot. C'est quoi un LMS, Learning Management System ? En français, si je traduis gestion de système de l'apprentissage.
Système de gestion
de l'apprentissage. Système de gestion de l'apprentissage, voilà, je le dis à l'envers. Yannick, c'est quoi ? C'est un site, c'est un service, c'est quoi un LMS ?
Alors, c'est une application, mais pas dans le sens application mobile, c'est une application, un site auquel on se connecte. On se connecte pourquoi ? Parce que comme ça on sait qui a appris et comment. Mais en dehors de ça, c'est juste un site sur lequel on va retrouver des ressources d'apprentissage qui ont été préalablement conçues ou recollectées par l'enseignant qui va se charger de nous. Ça peut être totalement automatisé, donc on peut ne pas avoir d'enseignant spécifique pour nous, mais en tout cas, le système lui-même va permettre de mettre à disposition ce contenu et pour l'apprenant ou l'étudiant de suivre ce contenu et de laisser une trace de la façon dont il a appris pour qu'on puisse, avec cette trace, améliorer son apprentissage. Voilà. Et donc l'idée finale, c'est d'optimiser l'apprentissage, de faire en sorte que les personnes qui apprennent puissent apprendre mieux, plus rapidement, étendre leur apprentissage par rapport à ce qu'on a le temps de faire en classe par exemple, ou par rapport aux modalités qu'on a le temps d'utiliser en classe, ou qu'on a l'opportunité d'utiliser en classe. Par exemple, utiliser les vidéos, c'est un petit peu plus compliqué à faire en classe qu'en ligne. C'est un petit exemple comme ça, mais voilà. La même chose pour les tests qui sont auto-validés. Donc on parle souvent de l'auto-évaluation des étudiants. Est-ce qu'un étudiant peut, dans une salle de classe, directement apprendre de ses erreurs ? Oui, il peut, mais il est en conflit, je veux dire, avec les autres étudiants dans la classe, dans le sens où il n'y a pas un temps illimité et chacun veut faire des questions veut poser des questions d'une certaine manière ou veut voir s'il a bien compris. Et bon, il n'y a qu'un seul enseignant pour une trentaine d'étudiants, et donc c'est difficile de partager ce temps. Alors que si on est face à un système qui a été préparé pour ça, on peut directement répondre à des questionnaires, etc., avoir du feedback automatisé qui a été préparé par l'enseignant, et ça va beaucoup plus vite pour certaines activités.
Voilà. D'accord, ça c'est un des avantages du LMS, on va les développer juste après. Nathalie, un défi, en deux phrases, c'est quoi un LMS?
Un système de massification des enseignements et des savoirs. Et il n'est pas réservé au monde scolaire. Il y a toute une partie des LMS qu'on n'a pas encore abordée, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et il y a énormément, voilà. Et donc ça me permet de former toute une entreprise avec un seul support. Ça fait un peu plus de deux phrases, mais j'ai travaillé.
Okay. Donc on va parler de Chamilo, d'autres exemples, Moodle.
Oui.
D'autres LMS qui vous passent par la tête?
Moi, j'utilise indifféremment Moodle ou Palsenari, une forme qui n'est pas libre, mais qui vient d'un libre qui s'appelle CanoProf, qui est le Learning Management System de la structure dans laquelle je travaille. Et vous en avez, donc il y a, ouais, ça c'est les trois principaux.
Et encore
la Wikiversité.
Ilias, qui est plutôt une plateforme allemande. Il y a Sakai, qui est une plateforme. J'ai envie de dire nord-américaine, mais qui ne fait plus tellement de bruit pour l'instant, donc c'est pas très bien dans quel état elle se trouve. Mais voilà, il y a quelques plateformes libres, et puis il y a les grosses plateformes propriétaires, ça il y en a des centaines. Dans le monde académique, on connaît surtout Blackboard et Canvas. Au niveau global, hein, je veux dire, pas spécialement en France. Et au niveau des entreprises en France, on connaît 360 Learning qui fait beaucoup de publicité, Skillsoft.
Les CCI viennent de se doter d'un système qui était générique. En fait, les chambres de commerce et de l'industrie viennent d'utiliser... Les gens du commerce et de l'industrie viennent de se mettre aussi au Learning Management System. Avant, elles avaient chacune le leur. Et là, elles ont unifié, en fait, pour pouvoir communiquer, échanger entre elles leur protocole de formation et travailler de manière un peu plus globale. Parce que c'est ça aussi l'avantage d'un Learning Management System. C'est-à-dire que quand vous avez un outil qui est commun à tout un réseau, vous pouvez changer les protocoles de cours, partager les experts et les écritures d'experts. Quand on a chacun le nôtre et qu'on a des plateformes diverses, faire communiquer les protocoles et les procédures d'apprentissage, ça devient un peu plus compliqué. D'où ma grande passion pour le libre et l'interopérabilité.
D'accord, on va y revenir et juste après.
Ouais.
Donc, vous y avez répondu partiellement, mais je pose quand même la question. Alors, qui utilise un LMS? Donc, c'est les systèmes éducatifs, Éducation nationale pour la France, par exemple, l'enseignement supérieur, ça, qui a été un acteur historique, et donc la formation professionnelle, les entreprises.
Tout le monde. Tout le monde utilise des LMS. On a vraiment des cas très étendus. Donc, petite pause publicité, mais Chamilo a déjà été installé plus de 80 000 fois. Et donc, dans l'échantillon de plateformes qu'on voit installées, on retrouve vraiment tous les secteurs. On a l'aérospatial, on a les call centers. Évidemment, ça, c'est un cas relativement classique, hein, les call centers, parce qu'il y a beaucoup de rotation de personnel. Et donc, il faut les reformer chaque fois qu'ils rentrent. Donc, on a beaucoup d'avantages économiques à avoir une plateforme où les contenus sont déjà préparés. On peut simplement donner ces formations au nouveau personnel sans devoir réorganiser des salles de cours, enfin de formation, etc. Voilà, on retrouve vraiment ça en secteur médical, secteur bancaire, oui, tout le secteur
académique. Même échantillon en tant que dirigeant de business dans vos clients, c'est pareil, ça touche tous les domaines pour l'accompagnement, ces services.
Il y a généralement la tendance au niveau professionnel, c'est plus au niveau des secteurs qui ont beaucoup de rotation du personnel. Donc on le sent plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que des secteurs extrêmement spécialisés comme l'aérospatial par exemple, où on a besoin de personnes qui vont rester longtemps parce qu'elles se spécialisent dans leur propre domaine. Là, on va retrouver le LMS, mais plus pour un usage, j'ai envie de dire, je ne sais pas quel terme en français, mais régulatoire, donc pouvoir être au courant des nouvelles lois à respecter, etc., au niveau professionnel ou au niveau du ministère du Travail. Enfin, voilà. Mais dans les secteurs où il y a beaucoup de rotation, comme les ventes, ventes en ligne ou ventes présentielles, les call centers, juste de support aux clients, etc., ou les banques, étonnamment, il y a beaucoup de rotation dans les banques aussi. Voilà, tout ça, c'est des secteurs très actifs. Dans le secteur santé, on a énormément de formation à suivre, et donc il y a aussi pas mal d'utilisation des LMS. Et c'est, y a des tendances, mais en général, on retrouve un petit peu. On retrouve les LMS partout. Il y a juste des secteurs qui sont plus friands de LMS que d'autres.
D'accord. Au niveau système éducatif français, notamment Canopé, puisque vous travaillez dans ce réseau, donc cet opérateur du ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'il y a, comment se fait le choix des outils que vous utilisez et,
Il y a deux choses. Des fois, c'est des commandes clients. Donc l'année dernière, il y a deux ans, on a travaillé sur le déploiement d'une plateforme pour le continent africain, pour la francophonie en Afrique. Et là, la plateforme était désignée par l'opérateur et on s'est conscrit. Quand on écrit par exemple pour les académies et qu'on est en charge d'une formation dans ce qu'on appelle, excusez-moi, acronyme que je vais déployer, EAFC, c'est les écoles de formation académique de l'éducation. Celle-ci, on travaille avec Moodle. Et quand on écrit nos propres formations, on est libre de choisir nos outils en fonction de nos appétences. Moi, j'ai écrit sur Canoprof, par exemple. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir un rendu élève ou un rendu apprenant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de quantifier les résultats des personnes, puisque je le fais sur site, je suis avec elles pendant 6 heures, et le support me sert à les former et à garder une trace écrite de formation. Quand c'est des formations à distance, par contre, ça sera forcément Moodle qu'on utilisera pour pouvoir leur permettre d'envoyer, de déposer et d'avoir une interaction formateur.
D'accord. Donc on a déjà évoqué quelques avantages d'un LMS, la massification des contenus, l'aspect interactif et auto-correction.
Auto-évaluatif,
voilà.
La certification aussi, dont on ne parle pas.
Alors, est-ce qu'on peut lister un petit peu ce qu'apporte un LMS et éventuellement que ne pourrait pas apporter une méthode d'enseignement traditionnelle, enfin d'apprentissage traditionnel En tout cas, quels sont les points forts d'un LMS
La disponibilité, parce que moi, passé 22 heures, je ne suis plus très opérationnel. Si ils avaient, pour des raisons de vie personnelle, etc., besoin de se former et que le temps qu'il leur reste est celui entre 10h le soir et 11h ou minuit 30, ils peuvent se connecter, ils peuvent regarder leur bande-son, leurs vidéos, répondre aux questions et avancer leur formation. Est-ce que c'est utile humainement? Est-ce que c'est souhaitable humainement? Ça, c'est une autre problématique, c'est une autre question. Mais c'est la disponibilité.
Donc c'est le côté asynchrone de la formation.
Oui, ça c'est quand
soit
même un avantage.
On est tous ensemble en même temps avec le formateur, j'allais dire, dans un lieu unique à un moment donné. Soit on peut être dans des lieux multiples et dans un temps qu'on choisit nous-mêmes, c'est
tout
ça.
Tout à fait.
Ouais. Mais ça s'étend aussi sur la collaboration, c'est-à-dire que pouvoir collaborer entre les différents apprenants est facilité par le fait d'avoir des outils asynchrone, justement, d'échange, donc comme des espaces de forum, des petits espaces de messagerie où on n'a pas besoin d'être immédiatement disponible pour pouvoir continuer à étendre sur un sujet en particulier. Les wikis, etc.
Les écritures collaboratives aussi.
Ouais.
Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a difficilement, parce qu'une fois que tu as quitté ton établissement de formation, tu as quitté.
Et puis là où, pour un autre sujet, c'est le suivi, donc la possibilité d'avoir des informations qui non seulement vont aider l'enseignant à aider l'apprenant, l'étudiant à ce moment-là, mais on parle aussi de données qui sont stockées, elles peuvent être stockées de façon anonyme, sur les tendances d'apprentissage des étudiants pour savoir, tiens, dans un an, si je dois refaire la même formation, est-ce que, le même cours, est-ce que je vais le faire de la même manière, sachant que par exemple, un cas très pratique, je vois que dans mon examen principal, tout le monde s'est planté à la question 3, quoi. Est-ce que ça veut dire que je peux m'améliorer d'une façon ou d'une autre, améliorer le cours pour l'année prochaine? Probablement, ça veut dire que l'année prochaine, je vais travailler sur cette question 3, soit pour mieux voir le sujet en question dans mon cours, soit pour changer la question parce qu'elle est mal formulée. Voilà.
Ok, donc pour le prescripteur, enfin pour le créateur de contenu, il y a un retour beaucoup plus prononcé que l'enseignant dans une...
L'analyse est plus rapide, parce que quand on fait un test, que ce soit avec des collégiens, des lycéens ou des adultes, et que tu vois que tu as 80% de ta classe qui n'a pas répondu à la question ou qui est à côté, tu as deux options, soit le cours est mal fait, soit la question est mal posée. Après, je peux être d'une mauvaise foi absolue, te dire non, j'étais parfaite, ils n'ont pas étudié, mais si tu es honnête avec toi-même, tu sais très bien que le problème est de l'autre côté. Et voilà. Et donc ça, quand tu le fais à la main, s'il faut que tu prennes tes feuilles, que tu regardes, que tu t'aperçoives au bout de la 10e feuille qu'il y a quelque chose qui bloque, et là tu commences à te questionner. Quand tu es sur ta machine, tu poses ta question et tes retours sont immédiats. Si tu vois que tu as 15% ou 20% de réussite, c'est qu'il y a un problème. Et après, à toi de chercher où est le problème, parce que la machine, elle le fera pas elle.
Donc ce que font les plateformes à ce moment-là, c'est évidencer ces problèmes-là, quoi. Donc mettre en évidence, dire ici, il y a un problème, on le voit, c'est marqué en rouge, automatiquement, on peut faire en sorte que la plateforme sache déjà ce genre de données est un indicateur d'un mauvais cours ou d'une mauvaise question, et du coup le mettre en évidence pour faire gagner du temps à l'enseignant pour qu'il puisse améliorer son contenu.
Et corriger aussi, parce que quand tu as mission de formation, tu dois donner l'information exacte et tu dois amener les gens à un certain niveau. Ça veut dire qu'après, tu as encore le temps d'envoyer un correctif aux gens. Parce que quand tu es en classe et que ton semestre est terminé et que tu as fait ton évaluation finale, tu peux pas beaucoup les rattraper pour leur donner le complément de cours. Hein.
Une question qui nous vient du web chat. Est-ce que cela ne signifie-t-il pas, excusez-moi, que l'enseignant doit être disponible 100% de son temps et non. Quelqu'un de réagir, le droit à la déconnexion?
Non, on n'est pas du tout disponible 100% de notre temps, on reste des êtres humains, on a des familles, on a des vies à côté, et autant vous dire qu'on y passe du temps, mais quand on enseigne, on sait aussi que c'est quand même quelque chose sur lequel on y met énormément d'énergie, et en règle générale, on y passe pas mal de temps. Donc non, on a droit à la déconnexion, les gens le font, c'est une histoire d'équilibre de vie, après c'est la décision de chacun, mais il n'y a pas d'injonction à être connecté et à devoir répondre dans l'instant. Tous les cas, je ne la vis pas dans mon quotidien professionnel et je n'ai pas de cas autour de moi où il y ait des obligations de réponse en délai réel.
Et justement, en fait, des plateformes permettent de rajouter cette couche de neutralité, je veux dire, de ce tampon entre l'enseignant et les étudiants en disant, ben voilà, posez vos questions sur la plateforme et moi, je suis disponible de telle heure à telle heure et je répondrai quand il y aura la question. Mais du coup, ça débloque l'étudiant qui ne doit pas noter quelque part, oublier sa question, etc. Il peut aller quand il veut poser sa question et il aura une réponse un peu plus tard, pas au moment même, mais ça, c'est une gestion simplement des expectatives, quoi, de dire ok, bah dans mon cours, ne vous attendez pas à ce que je vous réponde à minuit, quoi. Moi je travaille de telle heure à telle heure, vous avez la plateforme, vous pouvez y aller, d'autres étudiants vont peut-être vous répondre à minuit, mais en tout cas moi je répondrai dès que je suis disponible, voilà.
De toute façon, quand on fait une formation en présentiel, on laisse notre adresse mail aux stagiaires et on leur dit envoyez-moi un mail, et on répond pas au mail le jour même.
Et ici, la plateforme permet d'abstraire encore ça, de dire, bah, c'est la plateforme, vous envoyez sur la plateforme, moi je me connecte à la plateforme, j'ai pas besoin de vous donner mon email pour ça. Parfois l'email personnel, on espère qu'en général non, mais voilà, il y a des moyens de le faire, il y a moyen de faire en sorte que maintenant, par exemple, bah, à travers de. Enfin, je prends une photo avec mon téléphone et je peux me connecter sur la plateforme qui est responsive, comme disait Nathalie, donc qui réagit bien à l'utilisation au travers d'un dispositif mobile et directement envoyer la photo correspondante. Donc on a plusieurs cas d'applications comme ça où les enseignants demandent à leur. Aux étudiants de participer à un wiki par exemple ou un forum en publiant des photos. Donc on a un exemple tout bête qu'on avait sur un cours d'espagnol, je crois que c'était au Pérou, où l'enseignant demandait aux étudiants de prendre des photos de fautes d'orthographe dans la rue. Donc sur des panneaux divers, etc. Et donc il y avait, je veux dire, une participation qui se générait comme ça, et une motivation plus grande des étudiants, parce qu'ils peuvent réellement contribuer avec des trucs tout simples de la vie commune pour montrer qu'ils comprennent le cours et qu'ils sont aptes à pratiquer, je veux dire, leur apprentissage.
Dans les exemples comme ça, nous, on a eu apprendre par le jeu pendant le confinement. Avec mon collègue, on devait faire une présentielle de 6 heures sur apprendre par le jeu et on s'est retrouvés à brancher une webcam sur la classe virtuelle. Et pendant la classe virtuelle, on a mis les plateaux de jeu sur la table, on a fait nos démonstrations, les gens, on a fait des jeux en ligne, ils nous ont envoyé les réponses via le forum. Ça a engrainé une conversation et une communauté qui fonctionne encore. Où ils se sont échangés des jeux, des pitchenettes. Et...
Donc ce qu'il faut retenir de cette question finalement, qui pourrait effectivement de prime abord constituer un écueil ou un inconvénient, c'est que finalement ce qui est disponible, cette disponibilité, cette accessibilité, c'est pas forcément l'enseignant, c'est le contenu et la façon d'interagir avec ce contenu, pas forcément avec le formateur. Voilà.
Après c'est une question de positionnement personnel.
Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres limites que pourrait présenter un LMS Je pense par exemple à la fracture numérique ou le niveau d'équipement des apprenants. On a vu que la majorité maintenant des lycéens avaient un smartphone. C'est le principal vecteur pour se connecter à Internet, je crois d'ailleurs. Mm-hmm. Mais est-ce que, bon, ça c'est valable pour la France, peut-être que dans d'autres pays c'est différent. Est-ce que le LMS se heurte à une inégalité d'équipement?
C'est un sujet très long, mais bon, je le mentionnais avant, hors émission, j'ai vécu 13 ans au Pérou, donc j'ai une bonne idée du niveau d'accessibilité de ce genre de plateforme. Et en fait, maintenant, donc il faut savoir que la plupart des pays du tiers-monde ont vraiment sauté l'étape téléphone, en fait. Donc on est passé de rien du tout comme moyen de communication à des smartphones. Et la plupart des pays du tiers-monde sont de mieux en mieux équipés en smartphone, et donc ils peuvent faire une utilisation de systèmes en ligne, etc. Sauf qu'il y a toujours un problème d'accessibilité d'Internet. D'accord, donc ça c'est toujours assez fort. Et maintenant on a des trucs comme Starlink de SpaceX, qui a une antenne satellite en fait, qui permet, je crois que c'est $100 par mois, d'avoir une connexion n'importe où dans le monde, au sommet de l'Himalaya comme dans le fin fond de la jungle péruvienne par exemple. Et donc on réduit de nouveau cette fracture considérablement. Donc je pense que en tout cas pour la France, c'est plus vraiment d'application. Il reste des pays où il y a de nouveau pas de connexion dans la jungle par exemple, mais ça s'améliore. On voit clairement une solution à court terme pour ces problèmes là.
Sauf que tout dépend ce que tu mets derrière fracture numérique. Si on parle de fracture numérique, c'est-à-dire connexion internet, on a encore dans nos campagnes, dans l'Aisne, dans la Somme, dans l'Oise, là où je réside, des zones blanches. Ça, c'est incompressible, c'est lié à l'installation, à l'infrastructure. Mais on a un autre problème, c'est l'accès aux outils numériques. Et un téléphone, même si c'est devenu extrêmement courant, ils n'ont pas pour autant accès au réseau, et ils n'ont pas de quoi être suffisamment performants. T'as encore pas mal de jeunes qui sont équipés de smartphones qui ne leur permet pas le suivi complet du protocole, parce que tout n'est pas pris en charge. La vidéo va pas bien passer, le son, ou ils sont défaillants. Il y a effectivement un équipement qui est là, mais c'est quand même extrêmement corrélé à la classe sociale et au niveau d'éducation des parents et des familles. Il y a quand même une fracture numérique en France qui tend à se réduire. Il y a des choses qui sont mises en place par des associations du libre d'ailleurs, par des distributions, par des tas de choses qui sont faites. Pas mal de répare café aussi qui équipent les familles, je pense à CLX du côté de Lille. Je pense à Réseau en Bretagne, qui remettent en état des machines obsolètes sur lesquelles ils installent des distributions libres, et ils remettent aux familles et aux jeunes pour qu'ils puissent être scolarisés et suivre à peu près comme tout le monde pour les plus mal logés, on va dire. Mais oui, la fracture numérique, elle est là, et elle est vraiment, socialement, elle est prégnante.
Elle se réduit très fort, très vite.
Elle se réduit, je suis d'accord, mais moi, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas.
Oui, d'accord.
Concernant, on parle des inconvénients ou des limites éventuelles, des écueils auxquels on peut se heurter qu'un LMS. Moi, je pensais éventuellement à la courbe d'apprentissage, la prise en main du côté du formateur, et puis peut-être éventuellement du côté aussi de l'apprenant. Yannick, par exemple, Chamilo, comment ça se passe?
L'avantage principal de Chamilo, c'est la simplicité d'utilisation. Et en fait, on obtient des résultats tangibles au travers d'universités qui adoptent plusieurs plateformes à la fois, donc qui décident de laisser leurs enseignants choisir, par exemple, une plateforme. Et donc, on a par exemple tant au Brésil qu'en Suisse, on a des écueils donc de formateurs, d'enseignants qui nous disent, nous on a enseigné les mêmes objectifs d'utilisation de la plateforme LMS avec Chamilo et avec Moodle pour ne pas le citer, et on a une différence de 3 fois. Par exemple, ça prend une journée pour leur enseigner l'utilisation de Chamilo et 3 jours pour Moodle. Et donc on a, au travers de ça, on obtient, je veux dire, une idée claire de ce qu'il peut y avoir comme différence d'accessibilité entre deux outils. Mais souvent, le problème, est un des problème. Je veux pas non plus, c'est pas une histoire de lancer une guerre entre Moodle et Chamilio, mais on est relativement compétiteurs l'un de l'autre dans le monde du libre, et dans le monde des LMS en général, en fait. Mais la grosse différence entre Moodle et Chamilio, c'est la simplicité d'utilisation de Chamilio, et ça, n'importe quel prof qui a utilisé réellement les deux le dira, quoi. Enfin, on organise des conférences, des événements tout le temps, et on a tout le temps des gens qui viennent nous dire heureusement on est passé de l'un à l'autre parce que c'était vraiment difficile. Mais alors on a aussi un autre des autres statistiques, ça c'était de l'université de Genève, qui maintenant malheureusement est passé à Moodle complètement suite à un peu un choix institutionnel, mais où eux ils offraient en fait Moodle et Chamilio en parallèle, ils enseignaient à leurs enseignants l'utilisation des plateformes et puis ils leur disaient bah maintenant choisissez la plateforme que vous préférez, et là ils avaient systématiquement 95% des enseignants qui choisissaient Chamilio, quoi. Donc il y a entre les outils, il y a quand même des grosses différences. Alors, on me demande souvent, tiens, mais pourquoi alors est-ce que tout le monde utilise Moodle, quoi ? Ben c'est un effet de masse, en fait. Le Moodle, c'est la plateforme la plus populaire depuis longtemps. Et donc, simplement, ben, les gens choisissent la plateforme que leurs voisins utilisent déjà. Il n'y a pas souvent des études réellement qualitatives par rapport aux usages qu'on va vouloir faire. Enfin bon, voilà. Nous, on est très contents avec notre situation de Chamilio, de Challenger, pour l'instant. Mais voilà, donc il y a quand même des grosses différences au niveau de la simplicité d'utilisation entre un outil et un autre.
Ouais. Ok, dans un domaine que je connais bien, la musique, il y a certains logiciels dont il y a un dicton. On a usage de dire que ce logiciel-là, ça a été fait par des informaticiens. Mm-hmm. Et celui-ci, ça a été fait par des musiciens. Mm-hmm. Alors, Chamilio, il est fait par qui, finalement ?
Alors, il est fait par des informaticiens, c'est sûr. Mais par contre, on a l'impression qu'on a un processus de recollection des besoins qui est beaucoup plus centré sur les enseignants. Dans le sens où, quand on regarde un petit peu les forums de Moodle, par exemple, on va retrouver les personnes qui rapportent des problèmes dans Moodle le rapportent comme des ingénieurs, quoi. Et donc vont déjà dans des détails techniques dès qu'ils rapportent le problème. Et donc on a peut-être simplement que les gens qui rapportent ces choses-là sont beaucoup plus spécialisés dans leur outil que pour nous. Mais en tout cas, nous on écoute simplement les enseignants, on dit ok, est-ce que, à part le fait que ce soit fonctionnel, ce qu'on vous a fait là, est-ce que c'est simple à utiliser ou pas ? Combien de temps ça vous prend d'utiliser ? Et on écoute simplement, c'est écouter, et avoir des événements réguliers. Nous, on a un petit événement dans la francophonie tous les mois pour rencontrer des enseignants, justement, et voir qu'est-ce qu'ils pensent de notre plateforme. Voilà. On a aussi un forum ouvert, on a plein de canaux pour pouvoir nous transmettre les besoins. Mais alors, au niveau du développement donc d'un logiciel libre en général, comment ça marche, puisque un logiciel libre a priori c'est libre, donc on ne vend pas le logiciel lui-même, ou on peut le vendre, mais bon, c'est compliqué à mettre en place s'il est libre, parce qu'au final on peut avoir des fuites, quoi. Nous-mêmes offrir cette solution-là pour un certain prix, à quoi avoir un concurrent qui va offrir notre solution aussi pour un prix bien moindre. Mais donc en général, pour financer un logiciel, il faut un logiciel libre, il faut avoir des clients ou des dons, n'importe quel mécanisme de financement pour pouvoir financer des développeurs. Si on ne finance pas des développeurs, malheureusement, dans le monde du logiciel libre d'il y a 20-30 ans, 30 ? Ouais. On va se limiter à 20 ans. D'il y a 20 ans, il y avait beaucoup de geeks dans leur garage, etc., qui pouvaient faire des petits outils rapidement. Maintenant, on arrive quand même à une qualité de solution qui est très élevée, et donc on a besoin d'y passer énormément de temps, et c'est très difficile à mettre en place sans avoir des gens dédiés à ça.
Il y a combien de développeurs qui travaillent sur Chamilio ?
On est 4 techniques, quoi. Donc, une petite équipe pour un très gros système, en fait, maintenant, puisqu'on parle de plus de 2 millions de lignes de code. Mais voilà, les gens qui travaillent sont des gens qui travaillent depuis longtemps. Donc, la plupart d'entre eux ont déjà plus de 8 ans travaillant sur la plateforme. Et moi, 20 ans, je crois, ou 19 ans.
Je me permets juste une très courte parenthèse. Effectivement, les questions des financements et de comment on s'organise les entreprises de logiciels libres sont des questions récurrentes. On a plusieurs émissions libres à vous si vous voulez creuser ce sujet sur les entreprises du libre, sur les réseaux de libre, sur les financements du logiciel libre. Effectivement, c'est une question importante et récurrente.
Je crois qu'on arrive pas loin de la fin du temps imparti. J'ai juste une dernière question. un des avantages de Chamille aussi, en tout cas je sais que vous y êtes attentif, c'est l'aspect, ça rejoint une des valeurs du logiciel libre, l'interopérabilité, c'est l'aspect portabilité aussi des contenus. Je crois que Nathalie en antenne disait, si c'est pas
SCORM,
je n'y touche pas. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet aspect de portabilité des contenus?
Quand on écrit une formation en fonction du niveau, ça peut prendre une journée, deux journées. Mais si c'est un module de formation pour adultes qui s'étend sur plusieurs semaines, on parle de 50, 60, 80, 100 heures de travail derrière des fois. Entre la création des exercices, des capsules vidéo, des montages. Et quand on a un outil qui n'est pas libre et qu'on est enfermé dans l'outil et qu'on veut récupérer son contenu, c'est extrêmement compliqué. Donc moi j'ai pris la décision il y a assez longtemps suite à deux déboires. Si je ne peux pas enfermer ça, encapsuler mon protocole dans un SCORM, c'est-à-dire un fichier packagé que je vais garder sur mon disque dur en sécurité, et que si je pars par exemple chez Chamillo, je vais pouvoir redéployer mon SCORM et installer ma formation sur sa plateforme à moindre frais. Bien sûr, tout n'est pas encore interopérable correctement, donc je vais devoir reprendre l'écriture des titres, un petit peu un format vidéo, recollecter 2-3 questions et refaire un petit peu les choses. Si j'ai pas cette interopérabilité là, je n'y vais même plus, parce que j'en ai assez de passer énormément de temps à écrire des choses qui ont une valeur dans le temps, qui est certes, comme toute formation, elle a une date de péremption, hein, c'est surtout ce que j'écris des formations sur des outils techniques, mais je veux pouvoir changer de plateforme au besoin, en fonction des contrats aussi, je dois délivrer sur l'une ou sur l'autre des plateformes, et je ne peux pas tout réécrire systématiquement.
D'accord. Les utilisateurs de Chamillos arrivent déjà avec des contenus en général, ou partent de zéro? Est-ce que cette portabilité est dans leur tête important?
Je vais me faire mettre du temps, hein, ouais. Réponse très très courte.
Ça dépend des profils, mais donc on a environ 50% des utilisateurs qui viennent avec leur contenu et qui ont besoin que la plateforme supporte ce standard. Ouais. SCORM, un temps standard d'échange de contenu. Ouais.
D'accord. Merci Yannick, mais merci Nathalie.
Et merci Sylvain, c'était vraiment un échange passionnant à écouter. Et on invite les gens à venir découvrir ces outils, et notamment Chamillo.